du monde. Les rencontres se multiplient et montrent les liens de solidarité entre les habitants et les habitantes. Il y a l'aveugle qui veut apporter des fleurs à son aimé, le paysan qui l'aide à faire démarrer sa voiture, le décès d'une femme gardienne du transformateur hors circuit, le maire d'un village qui permet la récupération de la pièce, et tant d'autres rencontres aussi naturelles, inattendues qu'émouvantes. L'odeur du vent, le titre original du film est Dern dans la langue locale, ce qui signifie terre dure. L'odeur du vent est un conte humaniste et philosophique sur l'entraide entre gens simples, sur les difficultés au quotidien d'une population, la plupart du temps oubliée, ignorée. J'ai souhaité montrer la dignité des habitants de cette région, raconte le réalisateur, malgré tous les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Ce qui m'intéressait, c'était d'approcher ces gens simples, solidaires et qui vivent dans la simplicité de la nature. Quant à savoir d'où je puise mon inspiration pour les idées de mes films, je préfère parler de mes souvenirs. Plutôt que d'utiliser le mot « idée », je m'en inspire. Par exemple, j'avais rencontré un homme, un agent du service de l'électricité. Il s'appelait Monsieur Escondari. Et j'avais déjà entendu parler de lui. Il aidait avec une immense générosité les habitants dans les régions reculées. Il allait au-delà de son travail officiel et obligatoire. Il consacrait beaucoup de son temps aux gens par ses propres moyens, sans demander de salaire supplémentaire. Ce film est pour moi le film le plus important que j'ai réalisé. Sur son style, Adi Moharé ajoute « Je travaille depuis de nombreuses années sur l'affinité de la forme et du fond. C'est le fond qui fait que la forme émerge. Je pense que d'herbe, l'odeur du vent, est plus rythmée, avec plus de narration. Il est différent de mes films précédents. » Mais je voudrais ajouter que je ne change pas de voie en allant au travail, car cela signifierait que je me suis trompée de chemin. L'odeur du vent est à coup sûr l'un des plus beaux films à voir, depuis le film de Lee Ri-jun, Le retour des hirondelles, sorti en février dernier, depuis La terre éphémère de George Ovashvili et les films d'Abbas Kiarostami. L'odeur du vent est une leçon merveilleuse de dignité et de cinéma, un chef-d'œuvre, tout simplement. L'odeur du vent de Adi Moharé est au cinéma le 24 mai. La semaine prochaine, nous parlerons de L'île rouge, un film de Robin Campillo qui avait réalisé 120 battements par minute. De L'eau jaillit le feu, un film de Sabien Mazoko. Forest Maker, un film de Volker Schlondorf. L'hypothèse du Quai Conti, c'est un roman de Philippe Sisban. Et pour finir, d'abord, bien sûr, il faut surtout vous tenez bon, ça c'est important, mais surtout, je voulais vous présenter une nouvelle émission qui va passer à partir de dimanche soir. Ça s'appelle Sous la Voie Lactée et c'est la nouvelle émission de Radio Libertaire.
J'ai toujours adoré la radio. Et c'est avant tout la voix pour moi qui compte. La voix humaine, parce que c'est le lien. Sous la Voie Lactée, Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. La Voie Lactée, c'est plein de toutes petites étoiles, parce qu'en fait, elles sont toutes petites, ces étoiles. Mais elles sont des milliards. Et c'est ça qui fait cette lumière, ce halo. La Voie lactée, ça peut être tous les êtres humains, et ça peut aussi être toutes ces pensées. Voilà, et c'est ça qui nous éclaire la nuit, quand on se promène, soit dans une ville, soit dans une forêt.
Sous la Voie lactée, c'est une émission mensuelle et c'est à partir de dimanche prochain et c'est à minuit jusqu'à 1h du matin. Donc je voulais simplement vous dire plusieurs infos. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête, ce sont les 20 ans de CQFD. Ça se passe à la Parole Errante à Montreuil. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et également, Centre Pompidou, c'est la rétrospective complète des films de Todd Haynes, Chimère américaine. Et évidemment, le 3 juin prochain, eh bien, c'est 12 heures pour l'anarchisme, autour des documentaires de Tangred Ramonet, Ni Dieu ni Maître, tous les documentaires. Et il y a tout un programme. Donc ça se passe au lycée autogéré de Paris, 393 rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement, métro tram Porte de Versailles. Évidemment, Radio Libertaire y sera comme c'est prévu. Donc 12 heures pour l'anarchisme, pardon. C'est samedi 23, non pas 23, je suis en train de me tromper. Merci Lulu, il me fait les gros yeux de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que dessous de scène n'est pas encore arrivé. Alors donc je peux vous dire, voilà, sans faire d'erreur, c'est 12 heures pour l'anarchisme, c'est le samedi 3 juin. Et donc c'est à partir de 9h30 avec l'accueil. Il y a aussi, vous pouvez manger là-bas, c'est autour des documentaires de Tangred Ramonet, Ni Dieu ni Maître. Il y a énormément, tout un programme. Eh bien, si la personne n'est toujours pas là, je vais vous en dire un petit bout. Par exemple, à 10h, c'est la volupté de la destruction 1840-1914. Ensuite, il y a un débat avec Hans Steiner. Ensuite, c'est la mémoire des vaincus. Ça, c'est un débat avec Claire Ozias, Karine Snepp-Mack. Et puis à 12h30, ben 14h30 évidemment, c'est un déjeuner. Nous, on sera en émission. Mais voilà, je vois donc Nicolas qui arrive. Et pour finir, simplement, je vous redonne l'adresse. Donc 12h pour l'anarchisme, ça se passe au lycée autogéré de Paris, 393 rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement, métro, tram, porte de Versailles. Et évidemment, il y a une table de presse tenue par Publico. Très très bonne semaine, encore une fois, et surtout, tenez bon. Yeah.
20 euros. Ah non, je croyais qu'on était sur le vocem auditis, etc. et qu'il fallait remplacer le 100 francs par 20 euros. Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Je suis allé aux États-Unis et figurez-vous que j'ai vu là-bas un spectacle assez affligeant et original pour le moins. Un émir un peu fou qui venait non pas d'Arabie mais du Nevada. Hein. Il était à poil et il dansait, il chantait. Oh, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Je vais raconter ça à mes amis. Un émir fada venu du Nevada frime nu. Un émir fada venu du Nevada frime nu.
Il est nu, mais si vous prenez une feuille de vigne ou un morceau de papier et que vous écrivez un émir fada venu du Nevada frime nu, vous vous rendrez compte que c'est un palindrome. C'était les palindromes de Gérard Durand pour ouvrir ce magazine Dessous de scène. Et puis, comme ouverture de ce magazine, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens de l'usine Palikao, de la miroiterie, de la petite roquette, du bloc rue de Mouzaïa, des occupants rénovateurs et des squats de la rue Pia et de la rue des Envierges, dont Thierry parlait avec nostalgie peut-être. Je me souviens de la mention imprimée à Saint-Amand-Montrond sur les livres de poche. Je me souviens de la question d'Antonin à son père. « Dis papa, ils l'ont mis en prison, le monsieur qui a roulé en auto sur notre chat ?» Je me souviens de la lettre grecque Phi, logo de la France insoumise, sur une boîte aux lettres Place des Fêtes, dédoublée et transformée en Phi-Phi, brin d'acier, par un esprit farceur. Je me souviens quand ils se sont mariés, après 34 ans de vie commune, pour simplifier les démarches chez le notaire en cas de décès, pas pour les convenances, Francis et Myriam ont pu faire une photo de famille avec... pour leur mariage, leurs 4 enfants, 9 petits-enfants et même 2 ex-belles-filles. Je me souviens des marionnettes de Giscard et Chirac au guignol de l'info. Le monsieur te demande ? Je me souviens du nominatif, du vocatif, de l'accusatif, du datif, du locatif. Mais la seule phrase que je sais encore dire, c'est « Latine non loquero », je ne parle pas latin. Je me souviens que Guillaume aimait, quand il allait chez le traiteur chinois, aimait demander à emporter une ration de 263 grammes de porc à la saucette aigre douce, estimant que ça ne devait pas être plus compliqué à doser qu'une notion, une ration de 250 grammes ou 300 grammes. Et dans les boulangeries, Guillaume demandait des wurschtlurfs, surtout si la vendeuse était mignonne, afin de pouvoir engager la conversation et inventer à chaque fois une signification différente de ce que pouvait être un wurschtlurf. Je me souviens que Josiane attendait que son mari soit endormi, rond comme une queue de pelle sous l'effet de la boisson pour enfin aller se coucher, le préférant ainsi plutôt que raide comme un coup de trique. Je me souviens que je n'osais pas dire à mes camarades de classe que je n'avais raté presque aucun épisode de L'âge heureux d'Odette Joyeux, parce que malgré l'intrigue se déroulant sur les toits de Paris de l'opéra, avec un côté Belphégor du jeudi après-midi, ben les héroïnes, c'étaient des filles en tutu qui plus est. Je me souviens que Laura m'avait dit pour faire manger Théo, mets-lui sur YouTube la chanson « Les crocodiles ». Il adore et tu peux lui donner à manger tout ce que tu veux. Ah, les croco... Moi, j'avais craqué à la... Ah, les croco... J'avais craqué à la troisième écoute, jusqu'à ce que je trouve une version par Didier Vampas. Et là, Laura n'a jamais compris pourquoi Théo lui disait ensuite « Non, maman, la vraie chanson des crocodiles, s'il te plaît. » Ah, je me souviens que quand on cliquait avec le clic droit sur l'assistant d'aide de Word de Excel, Office 98, le chat, le chien, le trombone ou le globe terrestre, on avait une petite animation aléatoire à l'écran qui amusait bien Marie assise sur mes genoux. Parfois, le chat de l'animation de Office faisait semblant de griffer l'écran depuis l'intérieur. Je me souviens que je me jurais que plus tard j'aurais la même barbe que Raymond Lefebvre à la tête du grand orchestre pendant les émissions de Guy Lux pour le nœud papillon. Ça dépendait des jours. Je me souviens de « Et maintenant des images en couleur avec la caméra » qui précédait les micro-trottoirs de Philippe Vandel dans Nulle part ailleurs, dont l'humour dénotait d'ailleurs souvent une éducation de fils de prof de maths, comme il l'avait lui-même avoué. Je me souviens de « Avant d'épouser ta bergère, regarde sa mère, regarde sa mère ». La chanson était d'Henri Salvador, mais c'est ma belle-mère elle-même qui me l'a chantée. Je me souviens d'avoir relu avec Pascal des textes de retour de l'imprimerie pour en faire des « bons à tirer ». On s'isolait dans un bureau, il me lisait lentement le texte à voix haute, épelant les noms propres, énonçant la ponctuation point-virgule. On se faisait une page en 5 minutes, virgule, mais à l'issue des 5 minutes, ni lui ni moi n'aurions été capables de dire de quoi parlait le texte. Je me souviens que Ramon Finster, vous savez, le maire le moqueur, la folie en tête, deux doigts dans la bouche, l'amour en plus, avait, à l'époque de Culture au quotidien, inventé le jour des fous. Le signe du ralliement, c'était un simple trombone à la boutonnière, afin de se distinguer des rubans rouges, main touche pas à mon pote et autres, qu'on vendait comme des gris-gris. Le trombone, tout le monde pouvait en trouver un, même d'ailleurs celui qui était dans la rue.
Tous les cœurs se rallient à sa blanche cornette. Si les chrétiens succombent à son charme insidieux, le païen le plus sûr, l'athée le plus honnête, se laisserait aller parfois croire en Dieu. Et les enfants de cœur font tinter leur sonnette. Il paraît que dessous sa cornette fatale qu'elle arbore à la messe avec tant de rigueur, cette petite sœur cache, c'est un scandale, une queue de cheval et des accroche-cœur. Et les enfants de cœur s'agitent dans les stalles. Il paraît que dessous son gros habit de bure, elle porte coquettement des pas de soie, veston frivolité, fanfreluche qui pure, enfin tout ce qu'il faut pour que le diable y soit. Et les enfants de cœur ont des pensées impures. Il paraît que le soir en voit si bien d'une autre, à l'heure où ses consoeurs sont sagement couchés ou débitent pieusement des pattes nôtres, elle se déshabille devant sa psyché. Et les enfants de cœur ont la fièvre, les pauvres. Il paraît qu'à loisir elle se mire nue, de face, de profil et même hélas de dos, après avoir sans gêne accroché sa tenue aux branches de la croix comme au porte-manteau. Chez les enfants de cœur, le malin s'insinue. Il paraît que le vent au ciel un œil complice, qu'elle dit bravo Seigneur, c'est du joli travail, et qu'elle ajoute avec encore plus de malice, la cambrure des reins, ça c'est une trouvaille. Et les enfants de cœur souffrent un vrai supplice. Il paraît qu'à minuit, bonne mère, c'est pire, on entend se mêler dans d'étranges accords la voix énamourée des anges qui soupirent, et celle de la sœur criant encore, encore. Et les enfants de cœur, les malheureux, transpirent. monsieur le curé que ces bruits turlupines, se dit avec raison que le brave Jésus, avec sa tête hélas déjà chargée d'épines, n'a certes pas besoin d'autre chose dessus. Et les enfants de cœur, branlant du chef opine, tout ça c'est de faux bruits, des ragots, des sornettes, de basses calomnies, par Satan répandu, pas plus d'accroche-cœur sous la blanche cornette, que de cheval, mais un crâne tondu. Et les enfants de cœur en font une binette, pas de trouble penchant dans ce cœur rigoriste, sous cet austère habit, pas de ruban suspect. On ne verra jamais la corne au front du Christ, le vénard sur sa croix peut s'endormir en paix. Et les enfants de cœur se masturbaient tout tristes.
Et voilà, Radio Libertaire 89,4 MHz. Je ne peux pas m'empêcher le samedi après-midi de vous proposer des détournements possibles de Tonton Georges Brassens. Ici, c'est d'ailleurs par un groupe qui s'intitule carrément Sale Petit Bonhomme. Ils n'ont pas fait que chanter du Brassens, mais déjà leur nom de groupe évoque Tonton Georges. Ici, c'était La Religieuse, une chanson d'un érotisme délicat, délicieux, absolument torride et... Comme d'autres chansons de Brassens de la même époque, avec un retournement sur la fin. Je pense au fantôme ou Vain Dieu, tu vas manquer la messe, il se réveille après avoir imaginé des choses pas possibles avec un fantôme aux courbes calipiges. Et là, eh ben, cette religieuse se prête effectivement à des arrangements avec guitare électrifiée. Je vous recommande d'aller découvrir ça si vous le souhaitez. Le groupe s'appelle donc Sale Petit Bonhomme et évidemment, la chanson était de Brassens, mais je pense que ça, c'était pas la peine que je le dise à des auditeurs de Radio Libertaire. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Cet après-midi, je ne sais pas si Michel doit venir. Le premier de classe est là. Premier de classe, je dis parce que, à mon avis, il a toujours été le premier dans l'appel avec Abaïde, sauf une fois peut-être où il a pu se faire battre dans l'appel par un A à basse avec deux A, deux B. J'ai déjà eu ça dans mes classes, mais Moa est ici. Et Sophie est présente aussi. Petit coup de guimbarde, Moa, pour ouvrir.
Oui. Tu veux que je commence?
Oui, je t'en prie.
Bon, ben, bonjour d'abord, auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. C'est Moa et vous. Voilà le travail.
Merci.
Donc c'était moi à la guimbarde, n'est-ce pas? Donc voulez-vous que je commence, n'est-ce pas? Carrément. Bon, ben, des petites informations, tout simplement, parce que hier, avec ma compagne, nous avons été invités à voir un spectacle de Jean-Paul Sartre, huis clos. Voilà. Très, très intéressant, vraiment. À la Folie Méricourt. Je vous le recommande. 6 rue de la Folie Méricourt, Paris 10e. Huis clos de Jean-Paul Sartre. Bien entendu, avec pas mal de gens intéressants. Émilie Bernot, voilà. Asha Kulan Hussein. Johan Cheese, qui joue garçon. Sébastien Horry. Betty Pellissou, qui a pratiquement découvert la compagnie. Inès. Laurine Mevel. Albert Sezikei et la mise en scène de Raphaël Pellissou. Raphaël Pellissou, voilà, la musique de Thomas Debordes et puis le visuel graphique par Cédric Pithiot. La durée 1h30, voilà, donc il y a eu énormément de représentations, plus de 200 depuis juillet 2019 à Paris, Lille, Avignon et en off 2019, 2021, 2022. Programmé en 2023 aussi à Avignon. Et à la Folie, donc, théâtre, Paris, du 13 jusqu'au 25 juin. Vous avez le temps d'y aller. Voilà, 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 voilà. Spectacle disponible à partir aussi de septembre 2023. Et donc, c'est la compagnie Poqueline. Poqueline, Poqueline. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors, Sophie.
Jean-Jean. Ok. Alors moi, aujourd'hui, j'ai amené des textes autour d'une thématique, comme d'habitude, et aujourd'hui, c'est l'identité. J'ai quelques extraits. Le premier, c'est un extrait de Alice au Pays des Merveilles. Alors, le vrai titre, c'est Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, qui a été publié en 1865 par Lewis Carroll, qui a été traduit en français pour la première fois en 1869. Et au départ, c'était pas du tout un livre pour enfants, c'était un livre pour adultes. La plupart des gens connaissent la version de Disney, mais le livre est très différent. Je l'avais lu enfant et un extrait m'avait marqué parce que Alice, à un moment, ne sait plus qui elle est. Et donc la question de l'identité se pose, et j'avais trouvé ça assez vertigineux. La question que je me pose donc, c'est comment se définit-on ? Alice ramassa les gants et l'éventail. Et comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'éventa tout en se faisant la conversation. Que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit? Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente, mais si je ne suis plus la même, qui suis-je donc, je vous prie? Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles. « Bien sûr, je ne suis pas Ada », se dit-elle. « Elle a de longs cheveux bouclés et les miens ne frisent pas du tout. »« Assurément, je ne suis pas ma belle, car je sais tout plein de choses et ma belle ne sait presque rien. Et puis du reste, ma belle, c'est ma belle. Alice, c'est Alice. » »« Oh, mais quelle énigme que cela !»« Voyons, si... » Je me souviendrai de tout ce que je savais. 4 fois 5 font 12, 4 fois 6 font 13, 4 fois 7 font... Je n'arriverai jamais à 20, ce train-là. Mais peu importe la table de multiplication, essayons de la géographie. Londres est la capitale de Paris, Paris est la capitale de Rome, et Rome est la capitale de... Mais non, c'est pas cela, j'en suis sûre. Oh, je dois être changée en ma belle. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. Elle croisa les mains sur ses genoux, comme quand elle disait ses leçons, et se mit à répéter la fable d'une voix rauque et étrange, et les mots ne se présentaient plus comme autrefois. Maître Corbeau, sur un arbre perché, faisait son nid entre les branches. Il avait relevé ses manches, car il était très affairé. Maître Renard parla passant, lui dit « Descendez donc, compère, venez embrasser votre frère. » Le corbeau, le reconnaissant, lui répondit en son ramage « Fromage. » « Ah, je suis bien sûr que c'est pas ça du tout, » s'écria la pauvre Alice. Et ses yeux se remplirent de larmes. « Ah, je le vois bien, je suis plus Alice, je suis ma belle, et il me faudra aller vivre dans une vilaine petite maison où je n'aurai même pas de jouets pour m'amuser. Oh, que de leçons me fera apprendre.
Oui, certes, j'y suis bien résolue. Si je suis ma belle, je resterai ici. Ils auront beau passer la tête là-haut et me crier « Reviens auprès de nous, ma chérie !» Je me contenterai de regarder en l'air et de dire « Dites-moi d'abord qui je suis, et s'il me plaît d'être cette personne-là, j'irai vous trouver. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je devienne une autre petite fille. » Et pourtant, dit Alice, en fondant en larmes, je donnerais tout au monde pour les voir montrer leur tête là-haut. Je m'ennuie d'être ici toute seule. Voilà.
Très bien.
Nappes de synthétiseurs vous font deviner que ce morceau, Les Secrets d'Alice, date des années 80, ou peut-être même fin des années 70, je me demande. C'était Amélie Morin, créature de Jean-Yves Lullé. Amélie Morin, je ne sais pas. Alors, si vous avez mon âge à peu près, je vais vous fredonner un petit truc avec la voix fluette qu'elle avait là-dessus. J'étais venu pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'avais le sens de votre humour. J'étais votre petite sœur. Il y avait ça sur un album, et il y avait aussi sur cet album Les Secrets d'Alice. Et on peut dire aussi, non seulement des nappes de synthé, mais la voix de Jean-Yves Lullé derrière, très basse, à un côté gainsbourgien, évidemment. J'ai quand même noté une erreur, c'est pas possible ces multiplications qu'énonce Alice, alors que quand même Charles Dodgson, le vrai nom de Lewis Carroll, était également professeur de mathématiques, répétiteur et auteur d'ouvrages de mathématiques Logique sans peine, qui est assez intéressant. Il me semble qu'il y a des erreurs dans Logique sans peine quand même, et on utilise encore en mathématiques parfois l'appellation notation diagramme de Carol pour désigner les notations ensemblistes, mais bon, alors je pense que c'était volontaire dans son texte. Allez, dans la série des petits cadeaux, ben, il me semble qu'on a un truc de monsieur. Alors, est-ce que là, c'est le choix de Jean-Marie ou est-ce que c'est le choix d'Evelyne? Est-ce que je lance un générateur aléatoire là-dessus? Dieu que la vie est belle de Jean-Marie, ben, et c'est un inédit, donc on découvre ça tout de suite.
Offre-lui des présents qui font battre son cœur, démonte le passé que de rire il en pleure. Le temps n'a plus de loi, d'ailleurs plus rien à dire, étendu près de toi en tant comme il respire. Il repousse les armes, fait mine de dormir, respecte sa pudeur, embrasse son sourire. Elle souhaite nourrir ton amour du combat. Il frissonne et soupire et se recroqueville. Bien que la désirant, il ne se déshabille. Applique ses désirs qu'il nomme la foi. D'accord en désaccord, que vos deux corps s'unissent, découvre en harmonie la note du délice. Dans ton sommeil d'enfant, Dieu, que la vie est belle, tu renais de tes cendres, il replie ses ailes. Donner vie au présent, connaître le passé, mémoire d'un avenir bientôt dans les musées. Répondez aux questions de l'enfant d'aujourd'hui. Il saura vous aimer quand il aura compris.
I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. We want it darker. We kill the flame. Hey, loves. Hey, loves. Hey, loves. Magnified, sanctified be thy holy name.
vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in this story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures, and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They lost. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. Magnified, sanctified, thy holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. They lost. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken. The glory, then mine must be the shame. You want it dark? I'm ready, my lord.
Oui, vous le savez, j'adore les télescopages étranges. Alors ici, ce télescopage, le You Want It Darker, vous avez peut-être reconnu cette chanson de l'homme qui portait un chapeau comme Moa porte une casquette, Leonard Cohen. You Want It Darker, c'était une de ses chansons les plus sombres, effectivement, s'adressant à Dieu et déclarant I'm ready, my lord. C'était sur la fin de sa vie, effectivement. Alors, il en existe des versions, bon, par Leonard Cohen lui-même, avec sa voix de basse, c'est absolument superbe. Il en existe des versions avec des chœurs venant de différentes synagogues ou autres. Et là, je suis allé vous dégoter quelque chose, tout un album A Day with Susan de Joël Frédériksen, c'est-à-dire c'est un spécialiste, lui, de la musique de chambre, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et donc, il se permet de mélanger ici, Quand me souviens, morceau traditionnel qui marquait le début, les façons de chanter à plusieurs voix et l'œuvre de Leonard Cohen. Il y a comme ça sur l'album plusieurs télescopages, le rossignol transformé en Birds on the Wire et quelques croisements de ce type. Je vous recommande là aussi d'aller découvrir ça si vous le voulez, ou sinon si vous vous dites putain 5 minutes de trucs on se serait cru avec des chants religieux sur Radio Libertaire, et bien alors à ce moment là on va passer à autre chose. Effectivement, à qui la parole dans le studio?
Bon, écoute, dernièrement, j'étais invité à voir un film magnifique, hein, une sorte de documentaire, film algérien, de Jafar Gassem, et donc c'est sur les oubliés de mai 45, la catastrophe, le massacre à Sétif de mai 45, et vraiment, je vous le conseille. C'est un film qui va sortir en salle prochainement, et qui s'appelle Héliopolis, voilà, de Jafar Gassem. Et donc là, moi, puisque on était en plein mai 45, j'avais prévu également de lire un texte de Kateb Yassin, à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et donc, je l'ai encore. Je me suis dit, bah tiens, les auditeurs, auditrices de Radio Libertaire ne seraient pas mécontents d'écouter ce témoignage-là de Katabessine. Donc je vous rappelle Kateb Yassine, qui est un grand écrivain, poète algérien, dramaturge, et qui a écrit énormément d'œuvres remarquables. Il est mondialement connu. Donc je vous cite quelques œuvres. Soliloque, par exemple, le poème. Abdelkader et l'indépendance algérienne. Nejma, très connu. Le cercle des représailles. Le cadavre encerclé. La poudre d'intelligence. Le vautour. Le polygone étoilé. Les ancêtres redoublent de férocité. L'homme aux sandales de caoutchouc, également. Mohamed prend ta valise, etc., etc. Vraiment, flambée de d'œuvres qui ont été traduites dans plusieurs langues également. Voilà. Les fruits de la colère, les enfants de Klakaïna, etc., etc. Et donc, ce qui nous ramène au texte témoignage de Kateb Yassine. La guerre. La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que veut dire la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim, assétif, dans la rue. Il était à moitié nu, parce que on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. Oui, on ne trouvait strictement rien. C'était la misère noire. Il y avait d'ailleurs la misère même d'autres choses, les épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Oui, parce que toutes les familles étaient décimées, vraiment. C'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement ou une grande espérance. C'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que des liens coloniaux. Alors, bien entendu, il y a son ami de toujours, René Vautier, qui lui répond « Mais pour les tenants du colonialisme, il est hors de question que changent les liens coloniaux. Pour eux, ces soldats algériens rescapés de la campagne d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, il faut bien leur faire comprendre, dès leur retour à Alger, qu'ils se sont battus pour la liberté des autres, mais pas pour la leur, pour bien marquer qu'en Algérie, rien n'est changé. L'administration coloniale entend avant même que cesse la joie populaire de frapper un grand, grand coup. » Et ce à quoi Yassine répond: bien entendu, lorsque je suis sorti du collège le mardi 8 mai 45, parce que nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête. Il y avait les cloches chrétiennes qui sonnaient. Il y avait même des officiers qui buvaient du champagne, tiens, sur le trottoir. C'était d'un côté dans le centre, puisque le lycée était au centre. Une atmosphère de joie, quoi. Et là, totalement changé, parce que j'ai compris plus tard, mais enfin, il y a eu un élément nouveau. C'était le défilé du 8 mai 45 à Sétif, qui était vraiment imposant, parce que il faut savoir que le mardi est jour de marché à Sétif, et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour, il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés. C'était une immense foule, et devant la foule, il y avait les scouts musulmans. Et derrière, les scouts, les étudiants, dont certains étaient des camarades d'ailleurs, et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manif avec les étudiants, mais nous avons tout juste fait quelques pas, et puis, top, il y a eu des coups de feu. Vraiment des coups de feu. Le cortège a reflué, il y avait même des enfants écrasés, puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait. On voyait bien que c'était très grave, mais j'ai pris la décision, moi, de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. Et quand l'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol. Mais ça, je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région. Et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison. C'était des civils, oui. J'ai été arrêté par des civils qui m'ont conduit à la gendarmerie, ensuite à Sétif, au camp d'artillerie. Nous étions quelque chose comme 6 000, environ 6 000 Algériens de cette région-là. Et il y avait moi, bien sûr, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Mais il y avait plus jeunes que moi aussi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, quoi. À la gendarmerie, par exemple, dans le village, on avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie, puis on a entendu des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors tout le monde pensait qu'on allait être liquidés, tous. Bon, les gendarmes et l'armée emmenaient tout le monde, tout le temps, de nouveaux prisonniers, et on comprenait bien qu'il y avait une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif surtout, à Sétif, qu'on arrive au camp et que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. Alors un petit entracte avec Nico et on reprend.
ارسم لي دار بتواغي كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بهدي يابا هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك أرسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفارق دموعي مال الممات تحرق قرصم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت تودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الأرض عمرها بالورد ودري صغار تجري وتلعب برسم لي بلاد من الشرق للغرب ورسم ويدان تجري فيها ناس حفيانات تمشي فوقدها واشتقت لي يرويها شفتك في المنام برنس جد حياتي فوق كتفك بكل جهاد غير بك لحمة رسم لي بلاد مرسمها فنان رسم لي تبسيمة سيل عربي كرات نشوف دل في وجه إنسان دم الأحرار سكن قلبي رسم لي بلاد مرسمها فنان رسم لي تبسيمة سيل عربي كرات نشوف الدل في وجه إنسان دم الأحرار سكن قلبي رسم لي بلاد عنوان هالأمان.
Soit de Massy, dessine-moi un pays. Si vous êtes sage, je vous livrerai les paroles tout à l'heure. Mais pour l'instant, Moa, je te rends le micro.
Donc, à ces 103 morts européens, l'administration coloniale, 1150 morts algériens, victimes de la répression. Mais si le bilan des morts européens reste stable, le chiffre des morts algériens s'alourdit très vite. 7500, dit-on, à l'état-major du général Duval. La commission présidée par le général Thubert arrive à 15 000 morts. Mais, rappelé avant d'avoir terminé son décompte, la commission algérienne et une commission de l'ambassade américaine arrivent à peu près à un chiffre commun entre 40 000 et 45 000 victimes algériennes. Ouais, Yacine, donc, qui répond, oui, oui, bien sûr, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre que il n'est pas dû au hasard, ce massacre. Il n'est seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France, puisque ce massacre, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar la même année, et en Indochine aussi. C'est la même politique qui a conduit à ces massacres-là, puisque en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement, l'amiral Jean Le, qui traduisait un changement radical de la politique française, puisque avec et après le discours de Brazzaville de Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France, libre, serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances quand même, des illusions aussi, dans ce sens. On parlait d'union française, et quand on a vu le massacre, quand on commençait à avoir des nouvelles de ce qui s'est passé, par exemple, pour ma part, moi, j'étais de la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma aussi. Et on avait appris là que les massacres avaient été extraordinairement sauvages. Oui, sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir tous. Et d'ailleurs, les plus cyniques disaient « Bon, comme ça, maintenant on aura la paix pendant 10 ans au moins. » Ce qu'ils faisaient, c'était ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui relevait la tête. On sentait qu'il relevait la tête. Et à Guelma, par exemple, il se présentait avec des camions, oui, des camions, au domicile. J'ai eu beaucoup de camarades d'école, des jeunes que je connais très bien et qui avaient le même âge que moi. Et beaucoup, 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 beaucoup d'autres qui ont été carrément massacrés froidement, exécutés par les milices. Ces milices étaient des milices de colons, bien sûr, mais elles agissaient en rapport avec avec l'armée. Ça a été vraiment une boucherie, une énorme boucherie. D'autant plus que ça a été très très loin. On n'aurait jamais soupçonné tant de haine. C'est vrai que la haine a existé des deux côtés. Mais c'est vrai, là où elle a existé le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Karata, oui, là où ils l'ont brûlé en versant de l'essence, devant ses enfants. Bon, moi, j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne peut même pas être neutre, parce que ce parent-là, lui, était neutre. Il n'était même pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture, il faisait très bien son travail, puis il allait à la pêche. Puis voilà, quand il y a eu les événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre, on lui dit « Prends un fusil et on va tuer les Arabes ». Alors lui, il a dit forcément « Non, 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 pourquoi? Je ne vais pas tuer les Arabes, j'ai rien contre eux ». Bon, à ce moment-là, ils l'ont immédiatement fusillé. Et sa femme l'a entendu tomber. Elle est venue enceinte en criant. Ils l'ont tuée, ils l'ont tuée. Sans fils pareil, dans toute une région, c'était comme ça, systématiquement. Le gouvernement général, c'était un socialiste. C'était le gouvernement de De Gaulle. Et c'est là qu'on a vu déjà l'armée dépasser le gouvernement, le mettre devant le fait accompli, procéder au massacre, et par là même confisquer, oui, confisquer le pouvoir aux civils. Ça, on ne l'a pas assez compris en 1945. Ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça a été, on pourrait appeler cela, les illusions perdues. Oui, les illusions perdues. Nous, on a perdu l'illusion que nous pouvions avoir l'indépendance comme ça, octroyé d'en haut, comme un cadeau des Français de gauche. Quant aux colonialistes, eux aussi, ils ont perdu au moins une illusion, parce qu'ils pensaient que par ce grand massacre, ils auront la paix pendant 10 ans. Mais quelle paix!
Messieurs, dames, même si l'on pleure aux enterrements, s'il vivait en Bretagne, il y crèverait lentement. Avoir 20 ans dans les Aurès, ou à Verdun ou au Gabon, avoir 20 ans bien loin de Brest, c'est naturel pour un Breton. Pleurez pas, messieurs, dames, même si l'on pleure aux enterrements. S'il vivait en Bretagne, il y crèverait lentement. Si tu n'as pas l'âme fonctionnaire, si tu n'es pas né commerçant, si tu ne veux pas être militaire pour ne pas tuer pour de l'argent, qu'as-tu à faire dans cette vie avant que d'être retraité? Toi qui es né dans cette ville, moitié béton, moitié armée. Pleurez pas, messieurs, dames, même si l'on pleure aux enterrements. S'il vivait en Bretagne, il y crèverait lentement.
En 1973, René Vautier, que tu citais tout à l'heure, sortait le film « Avoir 20 ans dans les Aurès », évoquant les événements, comme on en parlait, en 61, avec des soldats qui ne voulaient pas être soldats.
Et à propos de 61, voici l'appel de Katabiassine, justement, à l'Assemblée nationale. « Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu, de tes propres yeux. » Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants, les jeter dans la Seine. La Seine, rougissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la Commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, oui, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, et maintenant vas-tu parler, peuple français? Et maintenant, vas-tu te taire? Ce à quoi reprend leur ami de toujours, Bentir. Ils étaient plus de 80 000 à encercler notre ville. Dans la casbah, ils ont planté des barbelés et des piquets. Ils ont tiré dans le tas, nous ont poignardé dans le dos. Aux abois étaient les paras qui nous mutilaient à huis clos. Oui, casbah, casbah, casbah bataille, casbah, casbah. Casbah mitraille, baïda, baïda, baïda travail, en cœur, sans peur, des représailles. Petit enfant criblé de balles, n'avait pas peur de la rafale et sous les tirs d'une escadrille, j'ai ramassé mon espadrille. Oui, aucune crainte, aucune plainte. Nos fidaïnes tiraient encore. Oui, aucune plainte, aucune crainte. Al-Hurriya défiait la mort. Ils voulaient raser la campagne avec leurs chars et bazookas. Drôle d'opération champagne, la casbah ne céda pas. Fini le coup de l'éventail, fini. Et de la terre promise, par nos fusils et nos batailles, Algérie jamais soumise. Il faudrait des millions de couplets pour honorer tous nos martyrs, qui sont morts pour la liberté, mais vivent dans nos souvenirs. Tel un volcan en éruption, l'Est, l'Ouest et le Sud luttaient pour la libération d'une victoire en certitude. Sous le beau ciel de la Casbah, il y avait plusieurs colombes qui volaient de toit en toit, se recueillant sur les tombes. Et soyez fiers mes enfants, en honorant ce prélude, continuez la révolution par vos travaux et vos études. Voilà, merci, bravo Léopold. Un autre qui va venir après, mais qui a une autre dimension, c'est Léopold Senghor. Toujours pareil par rapport aux Français morts, des Français différents bien sûr, morts pour la République. C'est un vaste village de boue et de branchages. Un village crucifié par deux fosses de pestilence. Haine, faim, y ferment dans la torpeur d'un été mortel. C'est un grand village qu'encercle l'immobile harne des barbelés. Un grand village sous la tyrannie de quatre mitrailleuses ombrageuses. Et les nobles guerriers mendient des bouts de cigarettes. Oui, ils disputaient les eaux aux chiens. Ils se disputent chien et chat, oui. Mais seuls ils ont gardé la candeur de leur rire et seule la liberté de leur âme de feu. Et le soir tombe, sanglots de sang qui libèrent la nuit. Ils veillent, les grands enfants roses, les grands enfants blonds, leurs grands enfants blancs qui se tournent et se retournent dans leur sommeil, hantés des puces ou du souci et des poux de captivité. Les contes des veillées noires les bercent, et les voix graves qui épousent les sentiers du silence, et les berceuses doucement, berceuses sans tam-tam, sans battement de mains noires, ils sont là, étendus par les routes captives, le long des routes du désastre, les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres drapés dans leurs longs manteaux d'or, les prisonniers sénégalais, ténébreusement allongés sur la terre de France. Écoutez-nous, oui, écoutez-nous, morts étendus dans l'eau, au profond des plaines du nord et de l'est. Recevez ce sol rouge, sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des branches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Léopold Senghor.
Des Sénégalais, y'en a, pas qu'au Sénégal, y'en a. Y'en a aussi au tata sénégalais. Oh là là, y'en a, pas qu'au Sénégal, y'en a. Y'en a aussi au tata sénégalais. Papa, c'est quoi le tata sénégalais? Qui c'est les Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils font dans un tata? Petits les Sénégalais, c'est des grands nègres bien gays. Y'en a plein dans le tata c'est fait pour ça. Papa, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font ces nègres-là? Est-ce qu'ils ont des grands balais, des pirogues et des sagaies? Non, petits ces nègres-là, ils font rien dans le tata. Ils dorment toute la journée, un tata c'est fait pour ça. Ces gens-là, ils sont fatigués comme ça. Est-ce qu'ils ont trop travaillé? Est-ce qu'ils ont trop balayé? Non, petit, t'as pas compris. Ils sont morts pour la patrie. Ces nègres-là sont tombés à la guerre chez les Français. Papa, comment qu'ils ont fait? C'était pas des vrais Français. Dis donc, ils étaient gentils de mourir pour la patrie. Les Sénégalais, ils aiment veulent bien rigoler. Ils se sont bien régalés à la guerre chez les Français. Oh papa, ça c'est marrant de mourir en rigolant à la guerre chez les Français. Vraiment, ces gens sont bien gays. Oh papa, quand je serai grand, je voudrais être sénégalais. Non mon petit, quand tu seras grand, toi tu seras un vrai Français. Des Sénégalais, y en a pas qu'au Sénégal, y en a. Y en a aussi au tata sénégalais. C'est des grands nègres bien gays qui sont venus rigoler à la guerre chez les Français. Ah sacré Sénégalais, oh sacré Sénégalais.
Le Lyonnais Pierre Delorme, sur un album sorti en 1985 ou quelque chose comme ça, le Tata Sénégalais. Je sens que dans quelques instants, on va retourner dans Alger, la ville blanche, parce que Sophie a sorti son livre de chevet, enfin de chevet. À mon avis, elle l'a aussi le matin, elle l'a dans les transports en commun, L'étranger de Camus.
À L'étranger, je le lis, le relis et le relis. Donc, pour rappel, c'est le premier roman publié d'Albert Camus, il avait 29 ans. La question que je me pose, donc, comment se définit une personne? Comment la définit-on? L'apparence est-elle importante? Si oui, quelle importance lui accorder? Donc, dans cet extrait, les faits et gestes d'une dame avec une figure de pomme, son apparence, sont décrits par Meursault, le protagoniste principal du livre. Pour info, je me souviens d'une dictée en primaire où on m'avait donc dicté ce texte-là. Je n'y comprenais rien à l'époque. J'ai dîné chez Céleste. J'avais déjà commencé à manger lorsqu'il est entré une bizarre petite femme qui m'a demandé si elle pouvait s'asseoir à ma table. Naturellement, elle le pouvait. Elle avait des gestes saccadés et des yeux brillants dans une petite figure de pomme. Elle s'est débarrassée de sa jaquette, s'est assise et a consulté fiévreusement la carte. Elle a appelé Céleste et a commandé immédiatement tous ses plats d'une voix à la fois précise et précipitée. En attendant les hors-d'œuvre, elle a ouvert son sac, en a sorti un petit carré de papier et un crayon, a fait d'avance l'addition, puis a tiré un gousset, augmenté du pourboire, la somme exacte qu'elle a placée devant elle. À ce moment, on lui a apporté des hors-d'œuvre qu'elle a engloutis à toute vitesse. En attendant le plat suivant, elle a encore sorti de son sac un crayon bleu et un magazine qui donnaient les programmes radiophoniques de la semaine. Avec beaucoup de soin, elle a coché une à une presque toutes les émissions. Comme le magazine avait une douzaine de pages, elle a continué ce travail méticuleusement pendant tout le repas. J'avais déjà fini, qu'elle cochait encore avec la même application. Puis, elle s'est levée, a remis sa jaquette, avec les mêmes gestes précis d'automate, et elle est partie. Comme je n'avais rien à faire, je suis sortie aussi, et je l'ai suivie un moment. Elle s'était placée sur la bordure du trottoir, et avec une vitesse et une sûreté incroyables, elle suivait son chemin, sans dévier et sans se retourner. J'ai fini par la perdre de vue et par revenir sur mes pas. J'ai pensé qu'elle était bizarre, mais je l'ai oubliée assez vite.
من وحش الحباب هاجوا فكاري وفرقوا ومطالع علي كين تفكرهم تشعل ناري وين راكم يا من وحش الحباب هاجوا فكاري مسكينة تفكروا تشعل ناري وين راكم يا ولدي تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حن علي j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي كوم الجيري كوم الباب ونحبها في الهباب فين نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها كين كنت بعيد نتفكرك أولا بلانش قلبي بلان دو تريستاس ما ينساكش أن روفانش وي تي بلاس دي غوفرنمان مع مرب حبابي لو نكون غريب بلان دو غير نتفكرها جو سوري جام توت لي فيل ان بو بلوس باريس لكن ماشي كوم الجيري كوم لي بال ونحبها في الحبال فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها Comment voulez-vous un amanhabha dans son cinq bruits maubaba de son soleil je ne puis me passer depuis mon enfance ne j'irai dans ces rues sans me lasser قلبي en était pris j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي كوم الجيري كوم الباب ونحبها في الحبال pour tout l'or du monde ما نفارقها الجي الجي شحال الحبال Beaucoup de jeunes gens يروحوا الى رغات واحد يدوي سولا خور خلى والديه دان كو دو تات كيف يكونوا بعيدي يعرفوا القيمه وي تي مون بير وين راك يا يما appelle, il est meurtri j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est belle ونحبها في الهبال pour tout l'or du monde ما نفارقها Alger, Alger شحال
Radio Libertaire 89,4 MHz, Lily Bonnich naquit de son vrai nom Elie Bonnich en Alger tout bêtement en 1922 et mourut à Paris en 2008 et il chante en franc arabe, mélange effectivement, vos oreilles ne vous ont pas trompé, de français et d'arabe. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, je me rends compte que si à chaque texte je glisse une musique, elle n'aura pas le temps de tout nous livrer.
Oh, après, je prévois toujours plus. ce texte s'appelle « L'accompagnatrice de Monsieur Marronnier ». Vous avez déjà, comme moi sûrement, essayé d'imaginer la vie des gens que vous croisez, essayé de les définir, de les comprendre à partir de ce qu'on vous observez. Moi, j'étais dans un café et j'avais tenté donc de décrire une scène. Les épaules voûtées, cachées sous son chapeau, il n'avait pas retiré sa veste. Il observait une enveloppe du bout du nez. Il baragouinait des obscénités à la jeune fille qui l'accompagnait, le vouvoyait et l'appelait « monsieur ». Il mâchouillait son mendiant de sa bouche sans dents. La jeune fille s'est retournée et j'ai perçu son air blasé. Le corps rejeté en arrière, loin de lui, elle avait enfilé le premier pull qu'elle avait trouvé. Le regard gêné a encore croisé le mien quand elle s'est retournée pour commander de l'eau. « Non, monsieur Marronnier, pas de coca !» Celui du monsieur me fait peur. Ses sourcils sont froncés, ses yeux bleus bruts sont inquisiteurs et dangereux. Elle veut sortir, elle est gênée, il veut rester. Elle ordonne, calmement. Il peine à se lever, sa lettre non ouverte est froissée dans sa main. Monsieur Marronnier passe devant moi et disparaît. Et voilà.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin d'eau ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Quand Sophie m'envoie un mail en me disant « Voilà, donc mon thème sera l'identité, mes textes, un extrait d'Alice au Pays des Merveilles quand elle demande qui elle est », je me dis « Là, c'est bon ». Un extrait de L'Étranger, tu sais, le moment de la dame à la figure de pomme, je me dis « C'est bon ». Un texte que j'ai écrit, je me dis « Bon, ben là, faudra que j'improvise ou que je pioche dans ce que j'ai directement tout prêt ». Un extrait d'Hamlet, la tirade, là, c'est bon. Et peut-être un extrait du livre Houria. Je me dis, on va bien voir, effectivement. Et donc là, ben comme il a fallu que je tire à bout portant un morceau, j'ai choisi Colline Rio, une chanteuse. C'est pas ma faute, hein, mais dans tous les artistes que j'ai depuis un certain temps, je n'ai quasiment que des chanteuses et peu de chanteurs à vous faire découvrir. Colline Rio interprète ses propres textes d'habitude, interprète aussi Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, ce qui est absolument superbe. Et là, eh bien, Les moulins de mon cœur de Michel Legrand avec des boucles musicales derrière, c'est absolument délicieux aussi. Mais donc, Sophie,
Du coup, je vais lire un extrait d'Ouria. C'est un livre qui vient de paraître tout juste.
Donc Ouria, c'est quelqu'un qui est né intersexe dans le Maroc des années 70, qui a été élevé par ses grands-parents, après avoir été abandonné par sa mère, donc c'est vrai. Hein. Le couple de ses grands-parents était divisé sur tous les sujets, l'éducation, la sexualité, la religion. Et donc, dans le récit, cette enfance a été nourrie par des identités donc plurielles. Donc c'est une personne qui est devenue une femme. Et donc c'est un court extrait donc où elle, là à ce moment c'est il, s'adresse à son grand-père qui est français. Donc, comment t'appelles-tu ? Je lui demande. Je ne sais plus comment je me nomme. Pourquoi on t'appelle le français oui ? Il redresse la tête. Ses gestes sont lents. Un filet de sueur glisse sur sa tempe. Il ne répond pas. As-tu vraiment oublié comment il s'appelle ? On t'a fait du mal, n'est-ce pas ? Oui, on lui a fait du mal. Il détourne la tête. Le chagrin mouille ses yeux. Tu les as entendus ? Il t'appelle le mécréant ? Tu sais, j'ai entendu tellement de choses que je peux tout entendre. Quel âge as-tu ? Mon âge est un âge où l'on regrette son âge. Ce qui compte, c'est que tu m'appelles grand-père en français. Oui, grand-père. Je l'appellerai toujours comme ça, et en français. Ça lui tient à cœur. Et sa langue, je la mettrai dans ma bouche. On dit que tu es vieux, grand-père, que tu vas bientôt mourir. Donc voilà, Ouria donc est née à Marrakech et vit aujourd'hui en France. Donc.
Un extrait d'Adieu Andromède de Christiane Rochefort. Bête. Elle aime mes mains. Elle vient. Elle me parle. À moi. Personnellement. Elle me montre où elle veut aller. Prends la direction.
Si je ne fuis pas, elle s'arrête. Tourne sa tête vers moi. Attends. Elle me réclame. Moi ? Pas à manger. Pour ça, elle vient à la cuisine. Monte sur son banc. Pas à sortir. Elle va à la porte. Elle est très précise. On ne peut pas confondre. Elle s'exprime. Viens, 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 elle me dit. Câlin, 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 bordé. Ici, tout de suite, toute affaire cessante. J'obéis. Alors elle monte sur mon fauteuil. Le câlin fait, et en suffisance, elle se mettra en rond. Elle dormira. Avec ma permission ? Non. Ma bénédiction. C'est fou. Comment c'est possible ? Je comprends pas. Ce n'est pas moi qui lui ai enseigné ça. C'est elle qui l'a trouvé. Elle n'est pas dressée. Elle ne fait que ce qu'elle veut. Ce que je veux moi, elle ne le fait pas. S'il faut la contraindre, ça arrive. Partir pour la campagne, faire l'indispensable vaccin anti-leucose. Le reste, je lui épargne. Je dois la mettre dans la cage. Alors, ses dents et griffes, elle ne me connaît plus, elle redevient sauvage. Quoi redevient ? Quoi sauvage ? Qu'est-ce que c'est que cette notion ? Elle reste ce qu'elle est. Et elle aime mes mains. Mon contact humain, je comprends pas. C'est une bête, non ? Non, les bêtes, ça n'existe pas. C'est une idée. À nous.
Et voilà, ça c'était le cadeau d'Evelyne. Et maintenant, qui va avoir le dernier mot ?
Alors, c'est un passage qui parle de Camus et Marie. Proposé par Sophie.
Marceau et Marie.
Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. Et j'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. Pourquoi m'épouser alors ? A-t-elle dit. Je lui expliquais que cela avait aucune importance et que, si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait. Et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle s'est tue un moment. Elle m'a regardé en silence. Puis elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme, à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit ben, « naturellement ». Elle s'est demandé alors si elle m'aimait et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions, dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai appris que j'avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était Paris. Je lui ai dit « Ah, c'est sale. Il y a des pigeons et des cours noirs, les gens à la peau blanche. » Puis nous avons marché
J'ai traversé la ville par ces grandes rues. Les femmes étaient belles. Et j'ai demandé à Marie si elle le remarquait. Elle m'a dit que oui, et qu'elle me comprenait. Pendant un moment, nous n'avons plus parlé, tiens. Je voulais cependant qu'elle reste avec moi, et je lui ai dit que nous pouvions dîner ensemble chez Céleste. Elle en avait bien envie, mais elle avait affaire. Nous étions près de chez moi, et je lui ai dit au revoir. Elle m'a regardé. « Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à faire ?» Je voulais bien le savoir, mais je n'y avais pas pensé, et c'est ce qu'elle avait l'air de me reprocher. Alors, devant mon air empêtré, elle a encore ri, et elle a eu vers moi un mouvement de tout le corps pour me tendre sa bouche. Merci. Marie.
Quelques minutes sur Radio Libertaire, bulle de rêve, le temps que, comme à l'accoutumée, Alexis arrive tout essoufflé.